Bonjour à tous. On va commencer la rencontre si vous voulez finir de vous installer. Je vois que vous êtes très nombreux et que comme moi, vous êtes très fans de l'œuvre de Yasmina Kadra. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Inès Delamotte-Saint-Pierre, je travaille pour la Grande Librairie. Donc j'ai souvent eu l'occasion de croiser Yasmina sur le plateau de la Grande Librairie. Et je suis très très heureuse parce que moi, c'est un livre que j'ai trouvé absolument magistral.
Moi aussi.
Ouais. C'est ce qui est bien avec Yasmina, c'est qu'il est sûr de son talent. Mais je le redis, moi je ne sais pas, est-ce que quelqu'un l'a lu dans la salle? Vous l'avez lu ou pas? Pas encore. Ben, vous allez voir, vous allez le commencer. Et
Vous allez vous régaler.
Vous allez vous régaler. Enfin, vous allez aussi
oui, pleurer,
un peu
rire,
souffrir quand même,
oui,
il faut le dire.
Bien sûr.
Je voulais vous dire une chose très importante, c'est que si vous avez envie de poser des questions... Moi, je trouve que c'est très important que les lecteurs aient du temps pour poser des questions aux écrivains, surtout qu'ils ne sont pas toujours là. Donc, n'hésitez pas, on va prendre vraiment 10 minutes à la fin de la rencontre pour que vous puissiez le faire. Donc, si vous êtes timide, mais que vous avez envie de poser une question, posez-la quand même, parce que c'est dommage de ne pas profiter de cet accès direct à l'un de nos plus grands écrivains.
Merci. Elle va me faire rougir,
ouais.
Alors que je suis trop basanée.
Ça n'arrive pas souvent. Voilà. Tu vas pouvoir nous dire, on va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que c'est important. Ce roman est magistral, je viens de le dire. Je voudrais que tu nous dises très rapidement quel est le point de départ de ce livre, comment il est né.
Bonjour à toutes et à tous. L'idée est née il y a peut-être une quinzaine d'années. Il y avait quelqu'un qui avait fait une bande dessinée sur les Turcos, les tirailleurs algériens. Et il voulait absolument que je participe à cette opération qui consistait à, au moins à reconnaître le mérite de ces gens-là qui s'étaient sacrifiés pour la France. Il m'avait supplié d'écrire un roman, mais je n'étais pas prêt à l'époque. Je n'étais pas prêt du tout. Je savais qu'il me fallait me documenter. Je déteste la documentation parce que ça me rappelle les années du collège et du lycée. Je préfère tout inventer. Mais là, et puis ça, l'idée a cheminé pendant des années. Et puis, il y a eu un déclic comme ça avec la pandémie. Pendant les 6 premiers mois, je n'avais pas réussi à coucher une seule ligne tellement je détestais cette forme d'incarcération. Voilà. Le virus nous empêchait de vivre, d'aller vers les gens qu'on aime, enfin de sortir, retrouver nos petites habitudes, aller dans une brasserie par exemple, prendre son café comme d'habitude. Et d'un seul coup, je me suis révolté contre cette condition carcérale. Et j'ai dit, il faut absolument que j'écrive. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais c'est surtout ma mère qui m'a aidé à finir ce livre. Elle me parlait beaucoup de ce que lui racontait son propre père. Parce que j'ai des grands-oncles qui ont fait la Première Guerre mondiale et beaucoup ne sont jamais revenus. Et voilà, elle était là, ma mère. Elle était. D'ailleurs, je l'ai écrit dans Lettre à ma mère que Augustin Trapenard m'avait demandé d'écrire. Il l'a fait. C'est une
pour
demande
Boomerang.
Qui a été. Oui. Et c'est une lettre que beaucoup d'écrivains avaient aussi participé à cette opération. Et dans cette lettre, je parle justement que j'étais en train d'écrire ce livre et ma mère était penchée par-dessus mon épaule et elle regardait cet écran. Ma mère n'a jamais été à l'école. D'ailleurs, elle a été à l'école à l'âge de 82 ans. Elle est partie parce qu'en Algérie, il y avait quelques professeurs qui voulaient absolument aider les personnes analphabètes à essayer au moins d'écrire leur nom. Elle est allée, elle a fait une première séance, puis la deuxième séance, elle est revenue à la maison. Elle m'a dit, ça y est, c'est fini, j'ai redoublé. Donc, elle voulait... Donc voilà, c'est un roman qui est traversé par la présence, je ne dis pas les fantômes, parce que je pense que c'est surtout le souvenir de ma mère qui m'a aidé à aller jusqu'au bout de cette œuvre.
Ben, écoute, on est très heureux qu'elle ait réussi à t'insuffler comme ça cet esprit romanesque. Il y a un personnage que j'adore qui est le héros de ce livre, Les Vertueux. Est-ce que tu peux nous dire qui est ce miséreux au cœur pur?
Oh, vous savez, si on veut vraiment trouver l'authenticité d'une nation, il faut aller dans la campagne, dans la ruralité. Les gens sont très simples parce qu'ils ont une vie simple. Et, ils évoluent à l'air libre. Et puis, la proximité est toujours heureuse, même s'il y a de temps en temps des petits conflits. Mais l'authenticité véritable, c'est là. C'est à cet endroit qu'on peut la situer. Et puis, mon personnage aussi vient d'un village qui est complètement enclavé, qui n'a même pas de nom. Il ne connaît même pas ce qui se passe de l'autre côté de la colline, tellement il est occupé à essayer de survivre. Donc il est berger, il élague les vergers, il fait tous les petits métiers pour essayer de survivre. Et voilà, c'est un personnage qui incarne un petit peu l'Algérien de l'époque. Cet Algérien à qui qu'on a dépossédé de tout et qui ne lui reste que la religion, la piété pour essayer de faire face à l'adversité. Voilà. Il est pur parce qu'il a été élevé dans la rigueur, dans la droiture. Et les gens pauvres sont souvent assez droits. Il n'y a pas trop d'hypocrisie, il n'y a pas d'ambition capable de bousculer certaines valeurs. Il y a pas, voilà. On vit au jour le jour et on essaie d'être honnête avec soi avant d'être honnête avec les autres.
Est-ce que son enfance ressemble à l'enfance que vous avez vécue ?
Non, moi, j'ai une enfance assez bizarre parce que déjà, à l'âge de 9 ans, j'étais dans une école militaire. Comprenez donc.
Mais avant l'école militaire ?
Non. J'ai grandi dans une ville, moi. J'étais à Oran. Et voilà,
Oran, qui est aussi un des personnages de ce livre.
Ah oui, j'adore cette ville. J'adore cette ville. Elle a toujours été un personnage assez important dans mes textes, que ce soit dans Ce que le jour doit à la nuit ou Les 11 meurent de nos blessures. Et puis, c'est une ville qui a tellement de choses à raconter, mais que personne n'écoute. Alors, j'essaie quand même de lui trouver cette voix.
Alors, avant d'aller à Oran, ton personnage est victime tout de suite d'un marché de dupes.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter, parce que ça, c'est vraiment le début du livre, donc on
ne
va pas trop
raconter tout ce qui se passe.
Tu ne veux rien raconter du tout.
Écoutez, j'ai écrit ce livre pour permettre à mon lectorat de sursauter à chaque partie, voilà, j'ai voulu le surprendre. D'ailleurs, même Bernard Barrault, quand il avait écrit La quatrième de coupe, il a parlé de ce moment assez important. Et j'ai trouvé que non, il ne fallait pas, il ne faut rien révéler. Tout ce que je peux vous dire, vous allez vous régaler.
Voilà, maintenant on va pouvoir poser des questions sur comment le lecteur peut-il se régaler.
Non, mais bon, voilà, c'est quelqu'un.
Tu peux quand même nous en dire un tout petit peu.
Oui, d'accord.
Un tout petit peu.
Ok, d'accord.
Sinon, ton éditrice qui est au premier rang va dire que tu peux quand même en dire. Peut-être
j'attends justement son autorisation. Voilà.
Le tout début.
Oh, oui. Ok. c'est un berger d'une vingtaine d'années qui un jour est convoqué par le caïd. Le caïd, c'est un peu le chef tribal. Et lui, c'est vraiment un chef tribal assez despotique. C'est un véritable satrape. Il fait le jour et la nuit, il fait la pluie, le beau temps. Et je l'écris, il peut faire d'un vaurien un notable, il peut faire d'un insolent un gibier de potence. Donc, il avait droit de vue sur tout ce qui bougeait. Tout ce qui ne bougeait pas même sur son territoire. Et un jour, il convoque ce jeune homme et il va lui faire un marché terrible, celui d'aller faire la guerre à la place de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, quand il lui manipule, parce qu'il y vient doucement, il lui parle de gloire et tout, pour essayer de le mettre en situation. Et puis, lorsqu'il lui propose ce marché, mon personnage n'accepte pas. Et puis, il lui dit, puisque c'est un secret entre nous, et que si tu n'acceptes pas cette proposition, ce secret va être une espèce de fardeau entre nous deux. Et moi, je ne peux pas accepter de le partager avec quelqu'un qui n'est pas impliqué. Et là, c'est une menace directe. Il faut qu'il aille faire la guerre. Et il est parti faire la guerre, la première guerre mondiale, à la place de quelqu'un d'autre.
Il arrive en France et là, on tombe dans une... Moi, j'ai rarement lu des pages sur la guerre comme ça, aussi, à la fois aussi violente, mais aussi belle sur la solidarité qu'il existe entre ces tirailleurs. Ça, c'est absolument magnifique.
Oui, mais
parce qu'il n'y a pas que la barbarie, il y a aussi la beauté.
Et c'est l'humanité face à sa propre barbarie. C'est la splendeur de l'humanité face à ses propres laideurs, à ses propres noirceurs. Parce qu'il n'y a que l'humanité qui est capable d'incarner en même temps la vallée des ténèbres et l'aurore boréale. Donc, on est en guerre et quand on est en guerre, tout le monde dépend, chacun dépend des autres. Et tous les autres dépendent de chacun. Donc, il y a cette solidarité qui est presque instinctive. On sait très bien que lorsqu'on n'est pas épaulé, on risque d'y rester. Et donc il y a cette solidarité qui est fantastique. Et dans la guerre, il n'y a plus l'Algérien et le pied noir, ou je ne sais pas, le blanc ou le gris. On est tous dans le même bain et on traverse la même épreuve. On essaye d'être solidaire pour essayer peut-être d'être un trompe-la-mort.
Combien d'Algériens sont venus se battre en France ?
Oh, des milliers, des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Et beaucoup sont restés. Il y avait même des gens qui sont restés sans sépulture, quoi. Vous savez, on a tous vu ces films sur la Première Guerre mondiale où les gens, des êtres humains, pourrissaient à l'air libre. On n'a pas le temps de les évacuer ou de les emmener ailleurs ou de les enterrer. La guerre, c'est une absurdité terrible. Elle nous parle. En même temps, elle nous met devant quelque chose qui est essentiel. Elle nous met devant je ne sais pas si on peut dire la préciosité de la vie. Je ne sais pas si on peut dire ça, mon éditrice, on peut le dire. Et en même temps, on est face à l'absurdité même de l'existence. Donc c'est un paradoxe tellement violent, tellement et tellement tangible. On le sent, on le touche du bout de la main. D'autant plus que moi, j'ai fait la guerre et je sais ce que c'est.
Justement, quand tu as écrit ces pages, tu as replongé dans tes propres souvenirs ?
Oui, c'est inévitable. Parce qu'on est dans une situation qui est extraordinaire et qui, en même temps, on parle de bravoure, mais moi, je ne peux parler que de l'innocence. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la guerre ? Il y a des gens qui n'iront jamais affronter qui que ce soit, qui, dans leur grand bureau, décident de la destinée d'une nation et la plongent dans une guerre. Ils n'en voient pas leurs enfants, ils en voient les enfants des autres. Et c'est pour ça que partout où je vais, je dis, il n'y a pas plus important que soi. Il n'y a aucune religion, aucune patrie, aucune cause qui est supérieure à la vie. Et donc, si on a à choisir entre la gloire et ses enfants et sa famille, je préfère choisir mes enfants et ma famille.
Ce livre paraît au moment où on est tous plongés dans la guerre, même si on ne la vit pas directement, mais on est tous beaucoup plus frappés par la guerre cette année. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, fait renaître aussi là, des souvenirs
Absolument.
Que tu as vécu ?
C'est, ouais. C'est inévitable, inévitable. D'autant plus que j'ai été en Ukraine et j'ai rencontré des gens magnifiques là-bas. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils étaient d'une beauté, d'une générosité, d'une disponibilité, d'une prévenance. Ils étaient vraiment des êtres de lumière. Et quand je pense à ces gens-là, je n'ai même pas à leur coordonner pour savoir ce qui leur est arrivé. Alors je les imagine de temps en temps épargnés, mais qui peut se mettre à l'abri d'une guerre ?
Yacine, c'est le prénom de ton héros. Oui. Est-ce qu'il incarne ce que l'Algérie a vécu dans la première moitié du XXe siècle?
Oui, beaucoup.
Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce qu'on ne connaît pas tous par cœur l'histoire de l'Algérie dans la première moitié du XXe siècle.
Beaucoup de mes lecteurs et mes lectrices m'écrivent. Ils me disent, oui, vous l'avez surchargé quand même. Il ne méritait pas tout ça. Mais j'ai dit,
c'est vrai que tu es dur quand même.
Oui. Je voulais que ce personnage, pour ne pas se disperser, pour rester concentré sur cette période, que ce personnage incarne toutes les épreuves qu'ont traversées les Algériens pendant la première moitié du XXe siècle. Et puis, elle est importante, cette moitié, parce que c'est cette moitié-là qui va construire l'Algérien d'aujourd'hui. L'Algérien que vous voyez, qui confond fierté et susceptibilité, qui est tout le temps assez irascible, eh ben, il vient de là. Il a passé des moments extrêmement difficiles et il était trop fragile pour les supporter et pour leur donner un sens. Il ne pouvait pas donner un sens à son malheur. Et quand on n'arrive pas à donner un sens à son malheur, alors là, on devient l'otage de toutes les frustrations du monde. Donc voilà, c'est mon personnage. Et il a traversé exactement ce que les Algériens ont traversé. Et puis, il faut aussi... c'est une période qui est très méconnue, qui n'est pas très bien traitée, alors qu'elle est essentielle pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. C'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, que la notion de la nation a commencé à germer dans les esprits. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, même les instructions, parce que depuis 1830 jusqu'en 1903, jamais l'Algérie n'a cessé de guerroyer contre la France. Mais c'était des insurrections tribales. Donc c'était des tribus qui opéraient sur leur propre territoire, qui n'ont jamais réussi à faire de cette insurrection un mouvement général en Algérie. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, la notion de la nation a commencé à germer dans les esprits. Les premiers jalons de cette, du nationalisme algérien ont commencé.
Ce qui est extraordinaire, c'est que tu fais de l'histoire de l'Algérie une histoire universelle pour le lecteur. C'est-à-dire quand on lit ce livre, on apprend incroyablement l'histoire de l'Algérie, mais on a le sentiment d'en faire partie. Est-ce que toi, tu avais besoin de communiquer cette histoire, de la faire entendre ?
Je crois que c'est, tous mes travaux vont dans le même sens. C'est traiter du facteur humain. C'est essayer de lui donner un destin qui lui échappe totalement et en faire un héros. Le héros de son propre drame, de sa propre tragédie, de ses propres joies, de ses propres haines. Et voilà, c'est pour ça que le livre, mes livres sont bien accueillis ailleurs. Que je vais au Brésil, c'est le même enthousiasme qu'au Mexique, c'est le même enthousiasme qu'au Japon. C'est magique. Parce que je n'essaye pas d'être un écrivain endémique. Ce que je propose au lectorat, c'est un regard sur eux-mêmes d'abord. Qu'est-ce qu'un livre ? Un livre, c'est un miroir qui nous renvoie à ce que nous sommes véritablement. C'est pour ça que les réactions sont différentes. Il y a quelqu'un qui va adorer un roman et un autre qui va le détester. Mais en réalité, l'œuvre est immuable. Elle est immuable. Elle nous renvoie à ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes capables d'empathie ou pas ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Est-ce qu'on a cette fibre littéraire qui nous rend humain l'espace d'une lecture ou pas ? C'est ça. Moi, je suis quelqu'un de... J'aurais pu être un poète si j'avais un peu plus de talent, mais je n'ai pas ce talent pour être poète. J'essaie de transmettre ma sensibilité d'être humain à tous les êtres humains sur Terre.
Moi, je trouve que c'est un livre qui est rempli de poésie, justement.
Oui, il y a quand même quelque chose de poétique, mais il n'y a pas la poésie. La poésie, quand je lis la poésie, je dis, mon Dieu. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je suis devenu romancier parce que je suis un poète médiocre.
Et quel est le rôle du romancier, alors ?
Oh, il a peut-être le rôle le plus important pour les gens qui sont attentifs un petit peu à la destinée des êtres humains. Le roman, ça nous aide à nous comprendre. On pense vivre ce que traverse un personnage, mais en réalité, on l'accompagne. On l'accompagne pour atteindre, pour arriver jusqu'à soi-même. Voilà, j'ai essayé d'expliquer ça dans Le sel de tous les oublis. Il y avait un personnage magique qui s'appelle Mika qui m'a appris sur moi-même des choses que j'ignorais totalement. C'est un personnage que j'ai créé de toutes pièces et qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même.
Qu'est-ce qu'il t'a appris sur toi ?
Ben, il m'a appris ce qui m'échappait, ce qui me rendait de temps en temps assez déprimé, qui me rendait un peu injuste avec moi-même. Donc il m'a réinventé. Et je suis devenu beaucoup moins... D'ailleurs, mon éditeur vous le dira, je ne suis plus le même homme depuis. J'accepte tous les coups bas, toutes les vacheries qu'on me fait, je les accepte. Voilà.
Et d'ailleurs, ce livre-là interroge beaucoup la notion de destin, de fatalité et de pardon. Ouais. Est-ce que tu vis aujourd'hui en paix avec toi-même ?
Mais j'ai toujours été en paix avec moi-même. Ce sont les autres qui me font la guerre. Moi, je n'ai rien demandé. Vous savez, c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours pensé que la littérature, c'est un univers de lumière. J'ai passé 36 ans de ma vie dans l'armée. Donc, je comprenais toutes les exactions, toutes les marginalisations, toutes les chosifications, toutes les disqualifications, parce que j'étais un écrivain au cœur d'une institution qui était aux antipodes de la vocation d'écrire. Alors, je disais, bon, un jour, je finirai peut-être par sortir vivant de cette guerre et j'irai vers la littérature. Mais cette littérature, c'est encore plus terrible que le monde que j'ai vécu dans l'armée. Donc, et mon personnage, Mika, m'a fait comprendre qu'il ne faut pas chercher la pierre philosophale parce qu'elle n'existe pas. Et le vrai ancrage, la vraie aurore boréale, c'est celle de notre esprit. Elle est là, elle est nulle part ailleurs, elle est en nous. La joie de vivre, il faut savoir, là, d'ailleurs je l'ai dit, si le bonheur n'existe pas, il est impératif de l'inventer. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois.
Et tu le fais avec vraiment un magnifique souffle romanesque.
Oui, de temps en temps, je me laisse aller comme ça, des colères, comme des espèces de... C'est un soupirail, quoi. Mais en vérité, quand je suis avec les gens que j'aime, ou quand je suis en famille, quand je suis même dans la rue, je suis très, très heureux.
Alors, tu ne veux pas raconter ce livre, mais tu peux nous raconter comment tu travailles, en tout cas. Comment tu écris ?
Ah, c'est infernal, c'est infernal. Quand je commence, j'arrête pas. Je commence généralement vers le coup de 9 heures. Et puis, ça peut aller jusqu'à 10 heures, minuit. Ma femme s'arrache les cheveux. Ma femme languit de moi à la maison. De temps en temps, elle vient me casser les pieds. Elle vient me raconter des histoires qui sont aux antipodes de ce que je suis en train d'écrire, juste pour me dire que voilà, je suis là, j'existe. Mais sincèrement, quand je suis dans mon texte, quelque part, je suis dans un royaume où je suis roi et valet, je suis un pur sang et un baudé, je suis le monde, je suis le monde.
Et est-ce que tu as un plan quand tu travailles, quand tu as travaillé sur les vertueux, comment as-tu fait pour travailler ce roman qui est dense, qui est long pour notre bonheur, mais donc j'imagine qu'il mérite un plan à un moment donné ou à un autre?
Non, j'ai essayé quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, j'établissais des plans. Et puis je me suis rendu compte que ce plan-là ne me permettait pas d'être libre dans ce que je suis en train d'écrire. Et c'était comme si un canevas que je ne pouvais pas dépasser. Et la littérature, justement, n'a pas besoin de ça. La littérature, c'est un fleuve, voilà, qui avance comme un souffle d'éternité, voilà. Et il nous permet de sortir des choses au fond de nous-mêmes et de pousser des portes dérobées sur des univers presque insoupçonnables qui deviennent la réalité. Donc,
Ça veut dire que quand tu as commencé l'histoire de Yacine, tu ne savais pas où elle allait te mener.
Ah non, je sais. Le problème, c'est que cette histoire, je la construis d'abord dans ma tête, comme un film. Je construis un film du début à la fin. Et quand je suis absolument convaincu que je suis prêt à passer à l'écriture, là, je commence à écrire. Parce que mon problème, ce n'est pas l'imaginaire. C'est comment mettre de la chair sur cet imaginaire-là. Et j'ai un rapport à la langue française qui est un peu conflictuel. Je ne suis pas un grammairien, je suis un artisan du verbe. Donc, il faut que cette langue soit indulgente avec moi. Et dès qu'elle est indulgente, alors je me laisse aller.
Est-ce que ça veut dire que tu lis à voix haute ton texte? Est-ce que tu relis les passages?
À voix haute, non, parce que j'ai un accent abominable. Abominable, vraiment. Vous savez, quand je vais en Allemagne, en Allemagne, il y a sa tradition, l'écrivain doit lire des passages. Et pour moi, c'est quelque chose d'atroce. Je ne peux pas.
Je ne te propose pas de lire le début de ton roman.
Non.
Allez.
Non, je ne sais pas lire.
Ce serait.
Les allez. Algériens m'insultent. Ils disent, écoutez, allez. il ne sait même pas parler.
Tu
donc, ce n'est pas lui qui écrit.
Tu peux nous lire la première page quand même. On va rentrer dans ton texte comme ça.
Je vais essayer. J'enlève mes lunettes.
Je suis sûre que tu vas y arriver.
Je vais essayer, vous allez. Des choses incroyables vous tombent dessus, détournent le cours de votre existence et les bouleversent de fond en comble. Vous avez beau fuir au bout du monde, vous réfugiez là où personne ne risque de vous trouver. Elles vous suivent à la trace comme une meute de chiens errants et font de vous quelqu'un qui ne vous ressemble en rien et qui devient la seule histoire que l'on retiendra de vous. Certains appellent ces choses El Mektoub. D'autres, moins déraisonnables, disent que c'est la vie. En ce qui me concerne, ces choses-là avaient un visage, une odeur et un nom, Gayd Ibrahim. Gayd Ibrahim était à l'image du bon Dieu, sévère et miséricordieux. Il pouvait faire d'un vaurien un notable et d'un insolent un gibier de potence, sauf qu'il était plus enclin à sévir qu'à gratifier. Il nous envoyait ses fiers couteaux à l'improviste pour s'assurer que nous veillions religieusement sur ses champs, que son bétail se portait mieux que ses sujets et que les échines étaient bien courbées. Tout ce qu'il y avait sur les terres de Gayd Ibrahim appartenait à Gayd Ibrahim. Les vergers, la rivière, tout. Les sources, le mausolée, ainsi que le marabout qui y reposait, la mosquée, son imam, nos taudis, notre sueur et notre chair, jusqu'aux pierres pavant les collines, jusqu'aux renards qui venaient dans le noir semer la pagaille dans les poulaillers. Et tout lui réussissait. Ne craignant ni le mauvais œil des envieux, ni la vindicte des humiliés, il y régnait son partage sur les êtres et les choses. Il était donc naturel de se soumettre à ses lois, qui étaient très simples, le servir ou disparaître. Comme nul ne savait où aller, on s'ancrait dans nos taudis et on évitait de faire du bruit. En ces années-là, les déracinés crevaient de faim sur les routes et aucun ciel ne valait un toit.
Vous pouvez lui dire qu'il y vient quand même.
Non, écoutez, c'est normal, parce que j'ai mis 3 ans à écrire ce livre, et voilà, je l'ai presque appris par cœur.
C'est là où le sens d'artisan du verbe prend tout quand même sa force quand on t'écoute lire. Ouais. On sent le rythme, on sent que cette écriture est musicale et c'est ce qui fait aussi sa merveille.
Le rythme, c'est sacré pour moi. S'il n'y a pas de rythme, je ne peux pas. Moi, j'essaie de faire
mais comment sorte... tu le travailles alors, si c'est sacré?
Ben, on est lagant. On est lagant en devenant économe de mes moyens. Je me méfie du lyrisme, quelquefois qui nous éloigne du texte, de l'essentiel d'un texte. Donc j'essaie de rester très percutant en choisissant les mots justes et en allant à l'essentiel. Voilà, le rythme, c'est comme ça. Je lis, si je sens que je ne peux pas avancer, je dis il y a quelque chose qui cloche et je reviens sur le paragraphe plusieurs fois jusqu'à le rendre fluide.
Est-ce que l'écriture est facile pour toi ?
Elle n'est pas facile parce que c'est une langue que je n'ai pas étudiée, la langue française. Je n'ai pas étudié la langue française, moi.
Alors pourquoi écrire en français ? Tu pourrais
parce
écrire...
que et c'est une histoire d'amour. Moi, j'ai rencontré la langue française à une bretelle de ma vie. Voilà, j'ai découvert qu'elle était magnifique. Donc, c'est l'amour qui m'a permis d'accéder à cette langue. Ce ne sont pas les études.
Tu l'as rencontrée à quel âge, alors ?
Oh, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'étais nul en français. Mes meilleures notes, c'était 6 sur 20, 8 sur 20. Il y avait un professeur de français, j'espère qu'il est toujours de ce monde, qui s'appelle Yvon Davis, et qui me disait qu'il gardait toujours ma copie avec les meilleurs, la 18 et la 16. C'est toujours 18 et 16. Et moi, bon, je disais, pour une fois, je vais avoir ma moyenne au moins. Et puis, c'était 6. Et il me disait, Monsieur Kadra, Monsieur Moursoul, vous avez beaucoup d'imaginaire, mais vous n'avez pas les accessoires qui vont avec. Essayez de structurer votre texte, d'aller chercher les mots justes et tout. C'est comme ça que cet homme m'avait beaucoup aidé. Et je l'ai aimé, c'est pour ne pas le décevoir que je me suis un petit peu fait à sa langue.
Il t'a fallu combien de temps pour maîtriser la langue française ?
Une année.
Pour écrire une année ?
Non, est-ce que je la maîtrise aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je la maîtrise. Oui, mais on ne maîtrise jamais une langue. Une langue, elle est un peu cosmique, elle est quelque part, elle nous dépasse. Donc on essaie de la mériter, on essaie de la travailler un peu, mais on ne peut pas la maîtriser.
On le voit aujourd'hui, la salle est pleine. Est-ce que tu écris pour tes lecteurs ? Est-ce que tu penses aux gens qui vont te lire ensuite ?
Quand j'écris, je suis absolument certain que je vais toucher le cœur des gens qui me ressemblent, ça c'est sûr. Donc, mais je ne sais pas, je suis constamment dans le doute. Est-ce que, comment, parce que j'ai écrit des livres qui, par exemple, Les anges meurent de nos blessures, avant les vertus, c'était mon roman préféré. Et pourtant, ce n'est pas le roman qui a connu le succès. Le seul de tous les oublis, pour moi, je le voyais comme un bijou littéraire. Et il n'a pas eu l'écho qu'il méritait. Donc, je suis toujours dans le doute. Mais j'essaie tout simplement d'être à la hauteur de mon lectorat, ça c'est sûr.
Et tu vas à sa rencontre très régulièrement, comme ici ?
Ben oui, je suis complètement malade. Normalement, je ne devais pas venir ici aujourd'hui. Je suis même gravement malade, mais je suis venu quand même. Parce que j'ai besoin, d'autant plus que Brive, j'ai toujours été très bien accueilli dans cette ville.
Qu'est-ce que veut dire ce titre, Les Vertueux ? Qu'est-ce que tu voulais dire par ce titre-là ?
Exactement ce que ça veut dire.
C'est-à-dire ?
Ben, les gens de bonne volonté, les gens qui sont dans la générosité. Il y en a quand même les gens simples, les gens humbles, les gens charitables. Voilà. On est dans la misère la plus crasse. D'ailleurs, un de mes personnages le dit. Quand on lui a demandé pourquoi il passe son temps à aider les autres, il dit parce que faire du mal, la place est déjà prise. Voilà.
Et alors pourquoi est-ce que c'est ces vertueux-là qui souffrent le plus ? Parce qu'on voit bien que, notamment au travers de Yacine, qui prend des coups sans cesse.
Oui, écoutez, pourquoi je souffre moi tout le temps ? Parce que ce sont des gens qui ne négocient pas, qui ne négocient rien, qui sont eux-mêmes dans un monde où il faut paraître. Vous savez, le drame de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on n'essaye pas d'être soi-même. On essaye d'être ce que les autres voudraient que l'on soit. Et on perd ses repères et on devient l'otage de l'attitude des autres, du regard que portent sur nous les autres. Et les vertueux sont des gens qui sont restés eux-mêmes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des saints, mais ils essaient par tous les moyens de ne pas sombrer dans l'ignominie ou la perversion ou la perfidie. Ils essaient d'être tout simplement juste avec eux-mêmes pour être juste avec les autres.
En lisant ce livre-là, j'ai pensé à la phrase de Faulkner qui dit que la littérature ne sert pas à mieux voir, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Est-ce qu'il y a chez toi cette envie toujours de comprendre le mal ?
Oui, j'ai beaucoup compris en écrivant. Quelquefois, par exemple, avec l'attentat, je ne comprenais pas très bien le conflit israélo-palestinien. Et quand je l'ai écrit, j'avais le sentiment d'avoir compris l'essentiel.
Là aussi ?
Là aussi, oui.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient poser une question à Yasmina ? Est-ce que quelqu'un va oser ? Ah ben voilà.
Bonjour. Vous dites que lorsque vous écrivez, vous doutez. Qu'est-ce qui fait que vous dépassez ce doute ?
Non, je doute de votre réaction.
Ah, okay.
Pas de ce que je suis en train d'écrire. Non. Mais c'est bien de douter. Ça nous permet de rester un peu humble dans le texte. On n'essaye pas de...
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, il y en a là-bas. Il y a une dame juste là aussi.
Oui, bonjour, merci.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à écrire et comment vous faites dans ces moments-là ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Comment vous le dépassez ?
En vérité, quand je décide d'écrire, c'est que je me sens en mesure d'aller jusqu'au bout de mon texte. Sinon, je ne fais rien. Quand je suis en vacances, par exemple, j'ai passé 5 mois en Algérie cette année, je n'ai pas couché une seule ligne. Voilà. Alors, je suis très, comment dire, discipliné. Je ne force pas, je ne force rien. Le drame de la page blanche vient lorsqu'on veut absolument écrire alors que l'inspiration n'est pas là. Et ça met l'écrivain dans une sorte de nervosité qui ne fait que l'éloigner davantage de ce qu'il voudrait écrire. Donc moi, tant que je n'ai rien à proposer, je ne fais rien.
Et comment vous sentez, comment vous sentez que l'inspiration est là ?
D'accord, je commence à écrire avec frénésie, que je n'arrête pas. Voilà.
Merci.
C'est bon.
S'il vous plaît, je n'ai pas lu votre livre et...
Où est-ce que vous êtes ?
Ici.
Oui.
Je suis petite, mais là, je crois que vous me voyez.
Ah, d'accord, ok. Moi aussi, je suis petit. Hein.
je n'ai pas lu votre livre, mais je suppose qu'il y a une grosse part d'historique dans votre livre.
Oui.
Et je voudrais savoir quelle est la part... historique que vous avez sucé, puis-je dire, des gens qui vous entourent, de votre famille, et la part que vous avez trouvée dans la documentation.
Non, je n'ai pas fait beaucoup de documentation, sincèrement. Je n'aime pas beaucoup me documenter. Je deviens un petit peu l'otage des historiens. Et il y a comme une sorte de contrainte. On doit se référer à telle et telle chose, et moi, je n'aime pas. J'essaie de puiser mon inspiration dans ce que j'entends.
Donc c'est plutôt votre famille qui vous a raconté tout ça ?
Non, pas totalement tout ça. La première. On parle vaguement de la guerre,
oui.
La Première Guerre mondiale. Là, je me suis documenté. Je voulais savoir où le deuxième régiment de tirailleurs algériens avait opéré. Là, est-ce qu'il a fait telle ou telle opération pour ne pas tomber dans le ridicule ? Parce qu'il y a beaucoup de détracteurs qui n'attendent que ça. Donc j'ai essayé d'éviter au maximum de ne pas tomber dans leur piège. Je me suis documenté sur les endroits où ce régiment avait fait la guerre, et c'est tout. C'est tout.
C'est extrêmement précis, d'ailleurs. Merci. Sur les lieux, les endroits où ils sont passés.
Oui, je me suis bien documenté.
C'est passionnant, ouais.
Même sur le dispositif allemand et tout. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais soldat. Voilà.
Il y avait une dame là-bas qui voulait poser une question, je crois. Oui, non ? Ah non. Bon, eh bien, tu disais aussi qu'il y avait ta mère qui t'avait raconté beaucoup de choses pour rebondir sur ce que disait madame.
Oui, elle me racontait, mais pas dans le détail.
Ce que ton grand-père avait vécu.
Mon grand-père n'a pas fait la Première Guerre mondiale. Il a été vaincu en 1903. C'était le dernier chir qui a été vaincu et depuis, la France s'est installée confortablement en Algérie.
Donc, les récits de ta mère parlaient de quelle personne, de ta famille ?
Oui, de mes grands-oncles.
De tes grands-oncles.
Mes grands-oncles, ouais. Maternels.
Est-ce qu'il y a des romans, Yasmina, qui restent dans un tiroir, des romans que tu ne publies pas, comme la dame qui te posait la question de savoir, tu disais parfois, si je ne peux pas aller au bout d'un livre, je n'y vais pas.
Oui,
est-ce qu'il y a des romans qui restent dans des tiroirs ?
Oui, il y en a pas mal même. Il y en a un que j'avais bien commencé, j'étais très enthousiaste. À un certain moment, je voulais écrire un livre pour le Maghreb. dans l'espoir d'unir un petit peu ce peuple qui se chamaille pour rien du tout, voilà, comme des gamins. Donc j'ai écrit un livre sur le Maroc, c'est l'outrage fait à Sarah Iker, et je voulais écrire aussi le Moromo tunisien. Et j'ai commencé, j'ai écrit la première partie, j'avais toute l'histoire dans ma tête. Et un jour, j'étais face à ma télévision en train de suivre un film, et la fin, c'était exactement ce que j'avais imaginé pour mon livre, et ça m'a cisaillé. Et depuis, je suis en cale sèche.
Et quelle est ta plus grande peur d'écrivain ?
Peut-être ne plus pouvoir écrire. Ne plus pouvoir produire quoi que ce soit. Ça, c'est ma grande peur.
Tu y penses souvent ?
Non, je n'aime pas penser.
Donc, il n'y a pas de peur qui t'habite, ni d'angoisse, comme disait madame, autour de ton travail d'écriture ?
Non, le seul doute, c'est comment mon livre sera reçu par mon lectorat. C'est le seul problème.
Ça te met dans une forme d'angoisse avant la parution du livre ?
Quand j'écris, non. Mais
non.
Quand, à la sortie, oui. À la sortie, j'ai dit, est-ce qu'ils vont encore me laisser tomber ? Et puis cette fois,
j'ai l'impression qu'ils ne t'ont pas laissé tomber, en tout cas.
Non, je ne pense pas.
Ouais. Merci beaucoup.
C'est moi. Merci beaucoup.